des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie.
Jean Mauduit, bonjour.
Bonjour.
Alors pour cette nouvelle chronique littéraire consacrée aux femmes écrivains, vous nous parlez aujourd'hui de L'Échappée. C'est un roman de Valentine Gobi paru aux éditions Gallimard. Est-ce que vous pouvez justifier votre choix ?
Oh, d'abord, c'est tout simple. D'abord parce que c'est un excellent roman.
C'est vrai.
Et puis, il évoque un des passages les plus sombres du XXe siècle. 1940-44, c'est-à-dire l'occupation allemande, l'arrière-présence des nazis, Vichy, la chasse aux sorcières, qui a suivi la libération. Tout cela revisité par une écrivaine, comme on dit aujourd'hui. Et enfin, parce que, ayant vécu moi-même cette période de ténèbres, dirons-nous, à un âge où tout marque, j'étais adolescent, j'avais à peine 19 ans, j'ai apprécié de pouvoir la regarder à travers le prisme d'une sensibilité féminine.
Qui est très différente de ce que vous avez vécu ?
C'est pas très différent, mais disons que ça analyse beaucoup plus en profondeur, en émoi, en sensibilité, un fait historique que j'avais regardé de loin, parce qu'à vrai dire, il était pénible, je veux dire, l'histoire des femmes tondues à la libération, lorsqu'un certain nombre de comptes ont été réglés dans la rue, ce qui ne nous fait pas particulièrement honneur. Donc je m'étais pas attardé sur ce fait divers dramatique, et de le voir aussi bien analysé m'a beaucoup intéressé, je veux dire.
Ah, est-ce que L'Échappée est un roman historique ?
Non, c'est pas un roman historique, c'est un roman. Bien cousu, il fait référence, mais c'est en fond de décor, ça n'est pas l'objet même du roman, à la période extrêmement difficile que les Français ont vécue. Et son mérite, c'est de le faire justement par touche impressionniste, dans la logique du récit. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas d'addenda historique qui détournerait du récit, qui le polluerait et qui attenterait à l'intérêt de la narration. Ce qui est étonnant, c'est que l'auteur qui en est à son quatrième ouvrage n'était certainement pas né en 1940, 44, 45. Et comment pourrait-elle s'inscrire dans un récit historique ? À moins qu'elle fasse une documentation épouvantable, lourde, et au risque de soulever de nouveau la polémique. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est qu'elle ait si bien pu assimiler l'atmosphère très particulière de cette époque.
Alors, racontez-nous un petit peu.
Bon, disons que c'est une histoire minuscule, pour employer le mot de Pierre Michon, une de ces histoires minuscules qui, ramenées à l'échelle de l'individu, tisse quand même la trame collective en marge du destin des nations. On pourrait presque évoquer Stendhal et la Chartreuse de Parme si on n'était pas là aux antipodes de l'œuvre de Stendhal. Bon, il s'agit, pour tout dire, d'une jeune paysanne, Madeleine. Durant la semaine, elle travaille comme femme de chambre dans un hôtel de Rennes, occupé pour la plus grande partie par les troupes allemandes, je crois même en totalité, peu importe. Et chaque semaine, elle revient à vélo passer le week-end à Ploërmel, son village, au fin fond de la brousse bretonne, jusqu'au jour, et c'est là que commence le récit, en regagnant l'hôtel un dimanche soir, elle crève un pneu, et elle est obligée de, par suite d'une toute une série de contretemps, de violer le couvre-feu. Au moment où une patrouille allemande arrive, qui la menace d'une arrestation, et c'est un officier allemand qui intervient pour la sauver. Il s'appelle Joseph Schimmer. Et toute l'histoire, c'est qu'entre Madeleine et Joseph Schimmer va s'installer une passion tout à fait singulière, fondée, j'imagine, à l'image d'un certain nombre de ces passions qu'on a vues éclore sous l'occupation, fondée sur l'attraction des contraires. Elle est française, un territoire français, aux mains de l'ennemi, de ces Allemands qui nous occupent et que l'on déteste, pour ne pas dire que l'on hait. Elle a 15 ans, il en a 40 bien tassés, elle n'a qu'un tout petit passé, elle est jeune, il a beaucoup vécu. C'est un pianiste de profession, c'est même un grand pianiste de renommée internationale qui, malgré la guerre, va itinérant de concert en concert, alors qu'elle ne connaît même pas ses notes. Et cet amour impossible va naître, impossible et scandaleux, va naître en dépit de tous les obstacles, et il faut le préciser, sous la réprobation générale, enfin la réprobation des copines françaises, des copines bretonnes, à travers la musique dont Schimmer use comme d'un sortilège, et qui effectivement envoûte Madeleine, la fascine, l'envoûte, tant et si bien que lorsqu'elle se donne à lui, on ne sait pas trop bien si c'est à lui qu'elle succombe ou à la musique. Il mourra, les grandes amours sont malheureuses, sur le front de l'Est où il a été envoyé, parce qu'il ne peut plus servir comme pianiste, ses doigts sont percutés de rhumatisme, il ne peut plus poursuivre sa carrière de pianiste aux armées, mais ne tombera pas sous les balles des obus soviétiques, il sera condamné à mort par ses propres compatriotes, parce qu'il s'est tiré une balle dans la main afin de ne plus avoir à tenir un fusil.
Alors cet amour impossible, cette fin terrible, est-ce que c'est pas un peu mélo tout ça?
Oui, c'est vrai. Mais c'est mélo, oui, mais c'est vraisemblable. Parce que des histoires de ce genre, il y en a eu. Pensons au problème de Chanel, par exemple. Certaines grandes actrices du cinéma français aussi. Et puis les œuvres romanesques côtoient toujours plus ou moins le mélo. Tout est affaire de construction et de tonalité d'écriture. J'y reviendrai probablement tout à l'heure.
Alors, je pense que le clou de l'histoire, c'est quand même ce qui advient à Madeleine.
Voilà.
Ensuite.
Madeleine est le vrai héros du roman. Eh bien, banalement, j'allais dire, elle reste seule avec l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Puis vient la fin de l'occupation. Et après s'être cachée quelques temps, après avoir réussi à passer inaperçue, elle tombe aux mains, disons, de la foule. Elle va subir les sévices dégradants que dans beaucoup de villes et de villages de France, la population surexcitée, on peut le comprendre aussi, a fait subir aux femmes soupçonnées d'avoir commis ce que j'appellerais peut-être un adultère patriotique, c'est-à-dire qu'elles ont trompé la patrie en couchant avec un Allemand. On les a appelés d'un mot d'ailleurs affreux, la France couchée. Bon, c'est une de ces femmes tendues, qui ont été marquées au fer rouge de la désapprobation publique et qu'on a vu trop souvent durant ces semaines-là. J'allais dire heureusement, la télévision n'était pas encore très répandue, ce qui nous a épargné la popularisation de ce spectacle. C'était déjà bien assez de savoir que ça existait. Et comme dans le cas de Madeleine, des femmes qui ont été tatouées d'une croix gammée qui ne s'effacera plus. Alors la plupart du temps, on s'est contenté de les plaindre vaguement en pensant à part soi qu'elles ne l'avaient pas volée. C'était mon cas d'ailleurs, je ne peux pas dire que je les plaignais. Même si je pouvais avoir quelque compassion, je trouvais qu'elles l'avaient mérité. Mais le grand talent de Valentine Gobbi est d'avoir essayé de comprendre. Évidemment, seule une femme pouvait faire ça. Comprendre de l'intérieur ce que pouvait représenter pour les femmes qui en étaient victimes, cette mutilation symbolique, on sait très bien ce à quoi renvoie profondément sexualisant la symbolique des cheveux. On tond les cheveux, tondre les cheveux, c'est tondre le sexe, bien entendu, le nier, le négativer. Alors Madeleine, il va y perdre son identité, et elle va tenter en vain de la reconstruire, elle a perdu sa jeunesse, elle a perdu son avenir, elle se sent tondue à jamais, désignée à jamais à la vindicte publique. Et là, cette araignée, cette espèce d'araignée maléfique est sur le sein, qui lui interdit tout contact avec un homme.
Une croix gammée, donc.
Une croix gammée. Il y a eu effectivement des cas de ce genre. Alors, quant à sa fille, Anna, dont elle a essayé de se débarrasser, elle a essayé d'avorter en vain, eh bien, Anna va se lancer dans la recherche symbolique du père, qu'elle n'a pas connu, qui pour elle n'existe pas, qu'elle veut ressusciter, et dans sa douleur extrême, dans l'espèce d'absurdité qu'est sa vie, on est vraiment au temps de l'absurde, elle va se revendiquer comme allemande, par défi, comme fille d'un nazi, fille d'une tondue. Alors c'est une deuxième partie qui s'achève par une happy end un petit peu hasardeuse, qui est inégale, mais il y a tout de même de très bons passages, très très bons, très pathétiques, et puis d'autres où l'auteur court un peu après ses personnages, je dirais, va à la ligne pour en finir.
Comment est-ce que vous trouvez le style de Valentine Gobbi ?
Le style est très intéressant. C'est une tentative audacieuse, originale, d'adapter le style à l'état psychologique des personnages et à leurs sensations. J'y reviendrai dans un instant, pas au niveau de la grammaire ou de la syntaxe, non, au niveau du rythme. C'est-à-dire qu'il y a des passages extrêmement ponctualisés par toutes petites phrases, au début du moins, et puis au moment où...
C'est composé un peu comme une pièce de musique.
Au moment où s'enfle la douleur de Madeleine et de sa fille, le style devient plus oratoire. Donc ça, c'est très intéressant. L'écriture pathétique est excellente, un petit peu trop pathétique. Mais ce qu'il faut signaler, qui est encore plus étonnant, c'est que presque tout le récit est rédigé au présent de l'indicatif. Ce qui donne au lecteur l'impression d'une temporalité immobile, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, ou à peine de temps en temps une phrase de ci, de là. Donc c'est une temporalité flottante, une espèce de bouillie du temps qui accentue l'impression de mal-être, celle des personnages et celle que le lecteur ressent grâce au talent de l'auteur.
Alors, est-ce que vous iriez jusqu'à classer ce roman parmi vos chefs-d'œuvre de chevet ?
Non. Non, d'abord parce que je ne faut pas abuser du mot chef-d'œuvre. Il n'y en a pas beaucoup, il ne faut pas galvauder l'expression. Chef-d'œuvre, un jour, peut-être, on jouera au jeu de les sortir, des chefs-d'œuvre de la littérature féminine. Bon, ils ne sont pas légion, pas plus que les chefs-d'œuvre de la littérature masculine. D'ailleurs, il y a un rayon de bibliothèque, disons. Mais... Et puis parce que ce roman, qui vibre d'émotion, n'est pas parfait. Mais je dois avouer que c'est peut-être ce qui fait son authenticité, lui donne son prix. Parce qu'il est complètement, dominé, marqué au sceau d'une sensibilité profonde, avec cette tentative très réussie de s'identifier à une époque disparue, à un drame français, et à des personnages qui ont, quel que fût leur tort, beaucoup souffert en un temps où d'ailleurs tout le monde souffrait.
Jean Mauduit, c'est le moment de la lecture dans cette chronique. Est-ce que vous auriez un passage que vous voudriez
lire ? Je vous en ai choisi deux, les toutes premières lignes, parce qu'elles vont vous donner... j'ai oublié de dire que... à quel point le roman parlait, ou l'auteur parlait admirablement de la musique. Il en parle beaucoup. Et c'est vraiment composé comme une symphonie, disons-nous. Je ne suis pas assez musicien pour porter des jugements techniques, mais c'est vraiment une musique qui accompagne le cœur. Madeleine grelotte. Elle souffle sur ses doigts, une main après l'autre. Un froid mouillé s'engouffre sous sa jupe. Elle plaque sa jupe contre ses cuisses. Les arbres nus succèdent aux arbres nus, découpés sur le ciel gris mauve. Elle fixe le ruban d'asphalte. Elle serre le châle sur sa poitrine. Le nœud se défait. La laine oscille contre sa joue, énervante. Elle enfonce le bonnet sur ses oreilles. Elle pédale à toutes jambes. La dynamo frotte contre la roue. C'est une vibration légère, berçante. Le phare n'éclaire rien, affaibli par la toile réglementaire, tout juste utile à signaler une présence humaine au halo tremblotant qui le croise. Un soupçon de vie dans l'hiver. 10 kilomètres de bruine encore, Rennes est une masse obscure à l'horizon, serrée derrière d'épais rideaux, des volets clos. À cette heure, Jeanne est arrivée à l'hôtel après un détour par les bois, sur le porte-bagages d'Antoine, un détour par Antoine tout court. Elle a emporté par erreur la clé du cadenas de la bicyclette. Il a fallu 2 heures à Madeleine pour forcer la serrure. Bon, vous voyez, c'est extrêmement pointilliste, tachiste, on pourrait dire presque. Et puis voilà le passage clé, celui de l'espèce d'exécution publique qu'elle subit. on changera de trottoir devant nous, les filles à turbans. Certaines porteront des chapeaux, des perruques, mais les pauvres comme moi n'auront un fichu sur leur tête, trahis par leurs poils courts dans la nuque et par le tissu même. Seuls les tondus en porteront de semblables, croyant se dissimuler, se signalant dans la distance, prévenant toute rencontre, tout frôlement avec d'autres corps, d'autres mains, détournant les regards. J'aurai la chance de retrouver pour quelque temps encore le couvent des visitandines et le voile blanc des novices. Pendant 8 mois, je ne me regarderai pas dans un miroir. Mes cheveux repousseront, lentement, les cheveux seulement. Je garderai sous ma chemise une marque indélébile de cette journée de juillet pas encore achevée, de ma faute, qui m'interdira à jamais la peau d'un homme. Je ne peux pas situer le moment, je n'ai aucun souvenir de la main qui tient l'aiguille, ni du visage penché sur moi. Je ne sais pas si c'est avant la tonsure, si je me débat, s'il fait jour ou déjà nuit, si j'éprouve de la colère ou simplement une apaisante résignation. Je dois avoir mal. Un homme hurle des mots, est-ce qu'ils sont pour moi ? Comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé. On essaie de le faire taire. Il continue derrière la main qui l'étouffe, tandis qu'on me perce la peau. La victime raisonnable à la robe déchirée, au regard d'enfant perdu, découronné, défiguré. De loin en loin, sa voix s'éraille, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. On tatoue sur ma poitrine, à la lisière du mamelon droit, une croix gammée à l'encre de Chine. Nous marchons, suivis par la foule, tête rasée parmi les décombres de l'avenue Janvier, de la rue Saint-Hélier dévastée, criblée de béances et d'immeubles en ruine. Pendant des semaines, c'était des gravats enchevêtrés de poutres, de meubles brisés, chambres, cuisines, salle à manger réduites en poussière, éclats de verre. J'imagine que c'était comme ça. Tissus déchirés, pêle-mêle de plâtre rose, bleu, mauve, brisures d'assiettes, jambes de poupée, tout est déblayé et vide. Maintenant, je trébuche sur des souvenirs que je n'ai pas. Les bombardements ont eu lieu sans moi. J'étais terré dans un couvent, mais je sais tout. Ils m'ont fait ce que la guerre leur a fait. J'avance dans le paysage désolé, anéanti au-dedans de Rennes. Il ne reste plus grand-chose, ni de Rennes, ni de moi. Le sol se dérobe, il fait blanc tout à coup, tellement blanc. Je tombe au fond de l'eau.
Merci beaucoup Jean Mauduit pour cette lecture de L'Échappée, signée par Valentine Gobi aux éditions Gallimard. Jean Mauduit, quel est le prochain roman que vous allez feuilleter ?
Eh bien, ce ne sera pas un roman, ce sera une œuvre. Nous allons rendre visite à un monument. Madame de Staël.
Ah.
Il faut vous dire que j'ai un ami d'origine roumaine qui, comme beaucoup de Français issus de l'immigration, adore notre littérature et qui est tellement fanatique de Madame de Staël qu'il en récite une page chaque jour, comme s'il lisait un bréviaire. Alors j'ai eu envie de retourner voir Madame de Staël en me disant qu'il y avait probablement quelque chose d'étonnant. C'est vrai que c'est un très grand écrivain que j'avoue ne pas avoir fréquenté depuis longtemps, mais j'ai eu envie d'y retourner, et je vous ferai part de mon expérience.
Bon, à très bientôt alors. Je rappelle à nos auditeurs que toutes les références sur ces chroniques consacrées aux femmes écrivains ou écrivaines, selon, sont sur notre site www.canalacademy.com. Merci beaucoup, au revoir.